CQFD.
On va poser une question un peu provocatrice maintenant. Et on va tenter d'y répondre aussi. Cette question, c'est: l'agriculture est-elle la pire invention de l'humanité, Sarah Diren?
Provocatrice, hein, cette question, Silvio. Mais nous allons justement nuancer grâce à nos invités. Mais avant de les accueillir, je vous propose un extrait de la web-série scientifique Vortex, proposée par Arte depuis mars dernier. Les deux premiers épisodes de Vortex étaient justement consacrés à cette question.
L'agriculture, la plus grande réalisation de notre espèce.
Nope.
C'est elle qui nous a permis de nous affranchir de la faim, des maladies et de dépasser notre condition de simples animaux.
Nope.
Bon, reprenons depuis le début. Il y a 12 000 ans, tous les peuples étaient chasseurs-cueilleurs, l'agriculture n'existait pas. Petit à petit, certains peuples se sont mis à sélectionner des plantes et des animaux et à les domestiquer, à les cultiver. Et en toute logique, on peut se dire que si la transition de chasse-cueillette à agriculture a eu lieu plusieurs fois, c'est qu'elle offre des avantages exceptionnels par rapport à la cueillette ou à la chasse. Et bah pas du tout.
En fait, faut prendre le problème à l'envers, faut essayer de raisonner sur le statut des chasseurs-cueilleurs. Ça change depuis les années 70, mais pour nous, des chasseurs-cueilleurs sont des gens qui vivent plutôt mal, c'est-à-dire qu'on parle d'économie de subsistance. Ils sont en mode survie en permanence. Et ça, c'est une vision qui date du 19e siècle. Et au contraire, ce sont des populations qui vivent dans une sorte d'abondance. Ils se sont implantés dans des endroits où il y a des ressources, il y a de l'eau, il y a du gibier. Et au final, bah, la vision qu'on a de ces chasseurs-cueilleurs, c'est la vision qu'on a du sauvage et qui est une vision
fausse.
Okay. Et hyper bourgeoise. C'est-à-dire qu'on met nos valeurs et on les exporte au fin fond du désert, du Kalahari.
Un chasseur-cueilleur avait plus de temps libre qu'un agriculteur.
Ah bah, carrément. En fait, ils veulent pas accumuler des biens. Quand t'es un agriculteur, faut semer, sarcler, faut enlever toutes les mauvaises herbes. Ensuite, faut récolter.
En plus de priver ses adeptes de temps libre, l'agriculture a également considérablement dégradé l'état de santé des premiers agriculteurs. Ils ont pris cher, très cher, et leurs descendants aussi. Ce qui nous permet d'en être sûr est une science qui s'appelle la paléopathologie, l'étude des maladies des populations du passé. Et depuis 30 ans, les preuves archéologiques s'accumulent et montrent que sur la majorité des sociétés néolithiques étudiées, les gens ont rétréci lorsqu'ils sont devenus agriculteurs. Et certaines populations ont perdu plus de 15 cm au cours de la transition. En plus d'être petits et de passer leur journée à bosser comme des galériens, les premiers agriculteurs souffraient d'infections que n'avaient pas les chasseurs-cueilleurs voisins. Parce que ces infections avaient pour origine l'élevage. Autour de 15 000 ans avant notre ère, les humains domestiquèrent la première espèce animale, le chien, puis vinrent successivement les chèvres, porcs, moutons, vaches, mais la liste est longue. Bref, ça représente des milliers d'années de contacts rapprochés avec eux et leurs parasites. Les conditions pour avoir des maladies étaient absolument parfaites. Premièrement, l'élevage a permis le passage de bactéries, virus et autres parasites depuis le bétail vers les humains. Plus de 180 maladies sont apparues dans l'humanité après nos interactions avec des animaux domestiques. Parmi celles-ci, la variole, la peste, les grippes, soit les trois plus grandes causes de mortalité de l'humanité, mais également la rougeole, le typhus, la rubéole, etc. Deuxièmement, avec l'agriculture apparaissent des peuplements de plus en plus denses et cette densité a permis le transfert de ces maladies de personne à personne très efficacement. Et trois, les migrations humaines ont permis de disperser ces maladies à une échelle géographique très large. Bref, l'agriculture a-t-elle été la pire invention de l'humanité? La pire invention par rapport à quoi?
Alors cet extrait de Vortex, hein, ces boîtes de série, est en effet à charge, hein, contre l'élevage en tout cas. Et pour en parler ce matin, nous recevons deux invités en duplex de Genève. Bonjour Jocelyne Desideri.
Bonjour.
Vous êtes bioanthropologue chargée de cours au laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologique du département forêt de l'Université de Genève. Vous retracez l'histoire humaine à travers l'analyse des dents et des ossements. Et à vos côtés, il y a Alicia Sanchez-Mazas. Bonjour.
Bonjour.
Vous retracez l'histoire évolutive de nos ancêtres en analysant et comparant leur génome. Vous êtes professeur à l'Université de Genève, responsable de l'unité d'anthropologie du département génétique et évolution. Alors, l'agriculture est-elle la pire invention de l'humanité? On va essayer de préciser un petit peu tout ça, mais d'abord, peut-être d'abord à Alicia Sanchez-Mazas, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre.
Bon, je crois que ce qu'on a entendu, ce sont des visions qui sont un petit peu simplistes, réductrices, qui ne tiennent pas compte vraiment de la complexité des processus qui ont accompagné l'évolution des humains dans la préhistoire. Et je pense qu'on va peut-être nuancer tout ça dans les minutes qui suivent.
Oui, alors nuançons, l'avènement de l'agriculture débute il y a 12 000 ans. On va placer justement ce décor, hein. C'est le début du néolithique, l'âge de la pierre polie, par opposition à l'âge de la pierre taillée, le paléolithique. Mais avant tout, cette période finalement est caractérisée par l'avènement donc de cette agriculture, de cet élevage. Qu'est-ce qui a permis cet avènement, justement? Un climat favorable?
Alors, l'émergence d'agriculture pour des raisons climatiques favorables, oui, mais pas seulement. parce que son émergence, elle est due à plusieurs autres facteurs, comme, par exemple, la présence à l'état sauvage d'espèces domestiquables, tant d'animaux que de flore, hein, mais aussi à la présence de techniques pour les exploiter, en fait. Et on a un autre facteur qui est aussi relativement important, c'est le type d'environnement. Ah. Parce qu'un environnement qui est trop favorisé, trop favorable en fait, ne va pas favoriser ce type d'innovation. On ne va pas choisir de pratiquer l'agriculture dans un environnement favorable parce que l'agriculture prend plus de temps, mm-hmm. plus de travail que la chasse et la cueillette.
Oui, justement. Alors, par exemple, Jocelyne Desideri vous dit, on peut penser, parce qu'il existe encore aujourd'hui des peuples de chasseurs-cueilleurs dans le monde. Il y a les Pygmées en Afrique, les Inuits dans les régions arctiques, les tribus amérindiennes en forêt tropicale, les Papous en Nouvelle-Guinée. En fait, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que ces peuples sont situés dans des régions particulières qui rendent soit l'agriculture inopérante, les Inuits en Arctique, soit alors le garde-manger est à portée de main pour en zone tropicale, par exemple. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Exact. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas fait ce choix. Mm-hmm. Alors, il y a des zones trop favorables, là où on n'a pas besoin, parce qu'on a un accès aux ressources constant, donc on n'a pas besoin de pratiquer la domestication des plantes et des animaux. Et il y a des environnements qui sont défavorables, et là où on ne peut pas le faire. Et donc, l'émergence de l'agriculture, elle a eu lieu uniquement à certains endroits, des zones intermédiaires.
Mmh. Et elle n'a pas eu lieu à un seul endroit. On dit toujours, oh, c'est le croissant fertile, le Proche-Orient. Pas du tout. Dans les Andes, on n'a donc du coup pas domestiqué les mêmes plantes et les mêmes animaux.
Non, effectivement. Comme vous le dites, le néolithique va apparaître de manière indépendante dans plusieurs régions du monde. On n'a pas affaire à ce phénomène de diffusion à partir d'un point unique, mais à partir de plusieurs foyers primaires. Et c'est à partir de ces foyers primaires que le néolithique va se diffuser. Alors on parle beaucoup du Proche-Orient parce que c'est le foyer primaire le plus ancien, le mieux connu et celui dont est issu le néolithique européen. Et donc, d'accord. On en parle. Et on a vu quoi ? On a vu la domestication du mouton, du bœuf, de la chèvre, du porc, du blé et de l'orge. Et vous en avez parlé, hein. Prenons les Andes, on voit la domestication.
Du lama.
Du lama, du cochon d'Inde, du maïs.
Et
de l'avocat. Ouais, voilà, des courges. Et donc, selon la localisation des foyers primaires, on va avoir des domestications différentes, d'espèces différentes, qu'elles soient végétales ou animales.
Alicia Sanchez-Mazal, c'est intéressant ça, parce que l'homme, évidemment, se sédentarise, donc commence à domestiquer des animaux et des plantes. Qui dit domestication dit sélection aussi, et donc peut-être manipulation génétique, hein, peut-être totalement inconsciente. Est-ce que, quelles conséquences ça a pu avoir sur l'environnement, la biodiversité de l'époque ? Ça l'a appauvri, ça l'a enrichi ?
Oui, je crois qu'il faut voir la question à plusieurs niveaux. C'est clair que les impacts sur l'environnement, ça a été d'abord que lorsqu'on a pratiqué l'agriculture, on a rapidement diffusé ces techniques sur des vastes régions. Il y a eu des migrations de populations qui ont conduit à ce que la domestication prenne une place très très importante. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a certainement eu une redistribution des espèces dans leurs environnements dits sauvages à l'époque, donc une redistribution peut-être avec une certaine perte de biodiversité. Maintenant, à un autre niveau, vous avez parlé de manipulation génétique. C'est quoi ? C'est tout simplement d'opérer des croisements systématiques sur des espèces pour essayer de fixer certains caractères qui intéressent. Ça peut être toutes sortes de caractères, ça peut être le rendement dans la production de lait des vaches, ça peut être des caractères esthétiques, hein. On a créé toutes sortes de variétés de chiens, par exemple, sur ce type de critères. Alors c'est clair que du point de vue de ces caractères, on va réduire la diversité génétique, mais ce sont précisément, c'est une réduction de diversité sur ce type de caractère, pas sur l'ensemble du génome. Et par ailleurs, on crée aussi de la variété en domestiquant. On sait, par exemple, qu'il y a des milliers de variétés de riz domestiqués, par exemple. Et donc, là, il faut un petit peu nuancer les propos.
Quelles sont justement les traces que vous pouvez observer? Je pense à vous, Jocelyne Desideri, qui travaillez notamment sur les ossements, sur les dents. Quelles traces vous découvrez, vous analysez, traces de cette transition entre chasseur-cueilleur et agriculteur?
Alors, l'élément qu'on cite le plus souvent dans cette transition observable sur le squelette, c'est la carie. L'augmentation de taux de caries, de leur fréquence. Et c'est essentiellement une alimentation avec un apport plus élevé en glucides et donc une alimentation plus sucrée qui en est responsable. Alors les caries, elles font partie de ces indicateurs de la denture que l'on observe pour discuter de l'état sanitaire des populations anciennes. Mais on en a d'autres. Par exemple, on va observer le tartre. Le tartre, c'est un indicateur qui est exceptionnel. C'est le lien direct entre l'aliment consommé et l'individu, parce qu'il y a des débris d'aliments qui sont piégés à l'intérieur du tartre, par exemple. Après, on a tous les maladies parodontales, c'est-à-dire les maladies qui touchent les tissus de soutien des dents. Un exemple connu, c'est la gingivite, mais archéologiquement, on ne peut pas l'observer parce que les gencives, c'est des tissus mous. Et donc, on va pouvoir observer son équivalent sur l'os, qui est la parodontite. Alors, on a toute une série d'indicateurs comme ça. On va voir l'usure dentaire, des stress qui s'enregistrent sur l'émail. Et donc, tous ces critères vont nous permettre d'aborder l'état sanitaire de ces populations anciennes.
Et vous travaillez également sur les os. Il y a plus d'arthrose?
Alors, il y a plus d'arthrose et puis d'arthrose peut-être même spécifique due à une activité nouvelle. Donc l'arthrose lombosacrée, elle devient de plus en plus fréquente. On a des maladies qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'un chasseur-cueilleur, c'est pas un agriculteur. Ils n'ont pas les mêmes modes de vie et ils vont pas montrer les mêmes pathologies. Et donc, si on a plus de traumatismes liés à la vie courante chez les chasseurs-cueilleurs, eh bien, on va avoir des maladies infectieuses, on va avoir des arthroses chez les néolithiques, par exemple.
Donc, autrement dit, si on résume, le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs était plus équilibré que le régime alimentaire des sédentaires qui cultivaient, qui avaient domestiqué des animaux et des plantes?
Là, il faudrait pouvoir dresser un bilan alimentaire assez précis des chasseurs-cueilleurs versus les agriculteurs. Je crois qu'on n'en est pas encore là. Et puis, ça va dépendre des environnements, ça va dépendre de toutes les variétés d'aliments que les populations ont utilisées dans différents environnements. Il ne faut pas oublier que l'agriculture n'a pas complètement remplacé les autres sources alimentaires. Il y a eu l'élevage, il y a eu la pêche, consommation de lait, etc. Donc voilà, il faut aussi là nuancer un petit peu.
Mais manque de fer, anémie chez les agriculteurs?
Alors oui, on voit apparaître, même si on l'observe aussi chez certains chasseurs-cueilleurs, on observe de plus en plus fréquemment des indices de carence et donc des anémies qu'on observe sur le crâne, sur le squelette, c'est-à-dire sur le plafond des orbites et sur la voûte crânienne avec des microporosités parce que c'est le corps qui essaye de faire des tentatives de production de globules rouges, par exemple, pour compenser.
Peut-être pour terminer cette première partie de mise en place un petit peu, en plus il y a eu une augmentation de la population, on peut imaginer une augmentation aussi ou une apparition des épidémies.
Oui, alors pour les épidémies, on pense qu'il y a un certain nombre de maladies infectieuses qui ont été effectivement transmises par la promiscuité avec les animaux domestiques. Ça peut être le cas de la diphtérie, de la rougeole, de la tuberculose, etc. Et effectivement, les populations aussi ont subi des croissances démographiques qui fait que ça a facilité la propagation de ces bactéries, de ces virus entre les individus. Donc ça, c'est effectivement une période qui a pu faciliter la propagation de maladies.
Ouais. Nous sommes toujours avec Alicia Sanchez-Mazas et Jocelyne Desideri. Je vous propose d'écouter maintenant un deuxième petit extrait. Cette fois, c'est le spécialiste néolithique Jean-Paul Demoule, qui est archéologue, professeur émérite à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne.
Pour savoir quel est l'état d'une organisation, d'une société sans écriture, la meilleure solution, c'est de regarder le traitement des morts. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, au début du néolithique, il peut y avoir des différences entre les objets qu'on met aux hommes et ceux qu'on met aux femmes, ceux qu'on met aux enfants, ceux qu'on met aux adultes, mais il n'y a pas de grande différence de richesse. Et au cours du néolithique, par exemple en Europe, à partir de 4500, 4000, certains morts reçoivent des objets de beaucoup plus grande qualité. On va construire sur les bords de l'Atlantique, par exemple, des monuments mégalithiques. Donc on suppose qu'à ce moment-là, c'est effectivement ce que permet l'agriculture et l'élevage, mais pas la chasse et la cueillette, on peut accumuler, il y a la possibilité d'accumuler des richesses, et plus encore quand la métallurgie va commencer à se développer, quand on va faire de l'extraction de silex ou de haches un peu précieuses en grande quantité, donc il peut y avoir une accumulation. On se représente souvent le néolithique comme une invention géniale qui a permis des tas de choses, et on ne serait pas là sinon aujourd'hui ici. Mais en même temps, les agriculteurs travaillent beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus d'efforts. Alors certes, ils produisent plus de choses, mais comme l'abondance, c'est quelque chose qui est relatif, c'est le rapport entre l'investissement en temps et en effort humain et puis ce qu'on en reçoit. Donc le problème, c'est que pourquoi, effectivement, et c'est la question qui serait intéressante, pourquoi s'être lancé dans cette révolution socio-économique qui, en fait, était beaucoup plus exigeante en effort et en énergie que le mode de vie qu'ils avaient auparavant. Ou bien est-ce que, finalement, ça s'est fait de manière tellement insensible que personne ne s'en est jamais aperçu et que ça a toujours semblé évident, comme ça nous semble encore évident de nos jours.
C'est donc l'archéologue Jean-Paul Demoule. Il a parlé d'arrivée, d'accumulation de richesses, même s'il lui semble que leur retour sur investissement n'est pas extraordinaire. Mais qui dit accumulation de richesses dit peut-être émergence des inégalités, non, Jocelyne Desideri?
Alors forcément, on met toujours en parallèle certaines notions, c'est-à-dire qu'on parle de stockage, donc on parle d'accumulation, et quand on parle d'accumulation, on parle de gestion. Quand on parle de gestion, on dit quelqu'un doit s'en occuper. Quand les personnes doivent commencer à s'en occuper, ben on commence à avoir une répartition des tâches, des personnes qui ont des responsabilités,
rôles,
ouais. Des rôles différents, et donc c'est peut-être ça qui a donné une impulsion.
Et donc, qui dit inégalité dit aussi forcément augmentation de la violence. On voit ces traces.
Alors, on a des indices d'actes de violence ou d'une certaine violence, même avant le néolithique, hein, même si c'est pas forcément très fréquent. On a des traces de découpe observées sur des néandertaliens. Mais avec le néolithique, on va avoir un développement de ces indices. Par exemple, on peut citer le massacre de Thalheim en Allemagne, qui est un charnier, une fosse commune, où dans laquelle on a entassé de manière un peu chaotique une trentaine d'individus, hein, des hommes, des femmes et des enfants, qui présentaient pour la plupart des traumatismes, en fait des coups violents, des coups mortels. Donc ça, c'est un témoignage de la violence qu'il peut y avoir au néolithique, en fait.
Ouais, puis on en a un aussi avec Ötzi, hein, qu'on a quand même retrouvé avec une flèche dans le dos.
Exact.
Peut-être pour terminer, Alicia Sanchez-Mazas, nous sommes les héritiers de cette révolution néolithique, elle a changé notre environnement, elle a changé notre humanité. Est-ce qu'on peut dire, en fait, pour essayer de répondre à la question de base, qu'elle a engendré le pire comme le meilleur?
Elle a engendré, je pense, du bon. Elle a engendré du mauvais. Maintenant, il faut veiller à ce que le bon reste bon et que le mauvais n'empire pas. Donc, il y a eu des avantages et des inconvénients dans cette dite révolution néolithique.
Bien, merci beaucoup, mesdames, pour nous avoir aidé à séparer le bon grain de l'ivraie ce matin. Je rappelle que vous, Jocelyne Desideri, vous êtes bio-anthropologue, chargée de cours au laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologique du département Forel de l'Université de Genève. Genève. Et vous, Alicia Sanchez, vous êtes professeur à l'Université de Genève et responsable de l'unité d'anthropologie du département de génétique et évolution. Je vous souhaite à toutes les deux une toute belle journée du côté de Genève.
Merci.
Merci.
Merci. Et merci à nos collègues de nos studios de Genève qui vous ont accueillis.
CQFD sur la première.